Une situation pire que le mur de Berlin. Voilà ce que dénonce un responsable qatarien, président du Comité national des droits de l'homme. Il l'a dit cette semaine à Genève. Il demande à la communauté internationale d'intervenir. Bonjour Nabil El Nasri.
Bonjour.
Vous êtes le directeur en France de l'Observatoire du Qatar. Vous êtes chercheur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. C'est vraiment ça, depuis quelques semaines, le Qatar coupé du monde du fait de ce blocus imposé par ses voisins, comme l'Allemagne de l'Est à son époque.
Alors oui, ça ressemble beaucoup effectivement à un blocus en bonne et due forme, d'autant que cette pratique dans les relations internationales avait largement disparu ces dernières années. Ça nous rappelle plutôt la guerre froide que la mondialisation d'aujourd'hui. Et effectivement, donc on a une volonté de l'Arabie Saoudite, mais surtout des Émirats Arabes Unis, de mettre le Qatar en quarantaine, de lui infliger un blocus total, de sorte à le faire capituler sur un certain nombre de dossiers régionaux, parce que les Émirats et l'Arabie Saoudite souhaitent tout simplement installer un nouvel ordre au Moyen-Orient, particulièrement dans la région du Golfe, ouais. Avec un double objectif.
Oui, non, je vous laissais finir, mais juste comme au temps de la guerre froide, on a aussi des familles qui sont séparées, des personnes qui vivent au Qatar et qui sont séparées de leurs familles dans d'autres régions, dans d'autres pays.
Effectivement, et le bureau des droits de l'homme au Qatar chiffre le nombre de familles atteintes à plus de 10 000. Ce sont des centaines de cas qui sont arrivés donc sur le mail, sur le téléphone de cette institution, qui répertorie à la fois les familles qataries qui ne peuvent plus se rendre dans les pays du Golfe, puisqu'évidemment il y a un blocus, mais également les ressortissants des pays du Golfe, des trois pays du Golfe cités, qui sont maintenant au Qatar, qui sont mariés par exemple au Qatar ou qui travaillent au Qatar, et dont les gouvernements de tutelle leur imposent un retour dans le pays d'origine. Il y a évidemment beaucoup qui ne peuvent pas parce qu'ils ont des affaires, parce qu'ils sont installés ou parce qu'ils font des études. Et effectivement, c'est une situation très compliquée humanitairement pour ces personnes-là.
Selon vous, Nabil El Nasri, le Qatar peut-il tenir le coup d'un point de vue économique, surtout, est-ce qu'il a les reins solides?
Alors depuis maintenant le début du blocus, vous avez vu des voies de contournement qui se sont organisées à la fois pour l'acheminement de matériaux lourds, par exemple dans la perspective des chantiers de la Coupe du Monde, ou bien évidemment des voies de contournement pour Qatar Airways. Donc je pense que le Qatar a suffisamment effectivement de surface économique, que ce soit au niveau financier, au niveau des subsides, au niveau des recettes de l'État et surtout des réserves. Maintenant, c'est sûr que s'il s'installe dans le temps et dans la durée, ça va quand même grever un peu davantage le budget qatari, même si en termes économiques, on est loin de l'asphyxie. Mais en même temps, si le Qatar pâtit de ce blocus, vous avez également les autres pays du Golfe qui en pâtissent, parce qu'évidemment, maintenant, le marché qatari, de près de 3 millions de personnes, leur est interdit. Et donc, ce sont tout simplement les produits des Émirats et surtout d'Arabie Saoudite, puisque l'essentiel de l'alimentation des produits alimentaires venait d'Arabie Saoudite, qui sont maintenant frappés d'interdiction d'entrée dans le marché qatarien.
Vous pensez que ça peut se retourner contre les autres pays de la région, contre les Saoudiens, par exemple?
Je pense qu'aujourd'hui, on a affaire à une situation de la communauté internationale qui est davantage en faveur du Qatar, puisque encore une fois, vous avez un blocus qui appartient au passé, des mesures quand même contraires aux droits de l'homme ou aux conventions internationales, comme la question du blocus ou d'interdire à des familles de s'y rendre, donc la liberté de circulation qui est interdite, ou en tout cas qui est bafouée. Et puis, un émoi de l'opinion internationale et même du Golfe. Vous avez par exemple les premiers jours de suite au blocus, un hashtag sur Twitter qui a été le plus utilisé, qui était « Le peuple du Golfe refuse le boycott et le blocus du Qatar ». Donc en termes d'image, en termes diplomatiques, l'Arabie Saoudite et les Émirats sont en train finalement de parvenir à un but finalement un petit peu inverse à celui qui était escompté, puisque vous avez une réprobation de la communauté internationale.
Avec des Américains qui sont un peu plus prudents. Au début, Donald Trump avait clairement soutenu l'initiative saoudienne. Là, il y a beaucoup plus de prudence.
Je dirais des Américains ambivalents, c'est-à-dire maniant le chaud et le froid, avec effectivement Donald Trump beaucoup plus en faveur des options de Riyad et d'Abu Dhabi, et par contre le département d'État et le Pentagone qui ont voulu calmer le jeu. D'ailleurs, vous avez des exercices communs de la marine américaine et qatarienne en ce moment dans les eaux du Golfe, et puis un nouvel accord d'armement qui a été signé entre Doha et Washington portant sur l'achat de 36 F-15 à hauteur de 12 milliards de dollars. Donc on voit bien que les relations avec les États-Unis restent très solides, et dès lors que les États-Unis restent les garants de la sécurité du Qatar, il n'y a donc aucune menace quant à la sécurité immédiate des frontières du Qatar, mais en même temps, le Golfe est profondément clivé aujourd'hui, et ça n'est pas du tout dans l'intérêt de ces pays-là de voir une telle fracture se dessiner aujourd'hui, une fracture aujourd'hui qui malheureusement risque de laisser des traces pendant très longtemps.
Alors justement, Nabil El Nasri, cette déclaration du vice-président irakien, il dit que le Qatar a favorisé un plan visant à une partition de l'Irak selon des critères confessionnels. Est-ce que le Qatar sème la zizanie dans la région ?
Je crois que c'est de donner au Qatar davantage de pouvoir qu'il n'en a. L'Irak n'est pas le pays avec lequel le Qatar partage une frontière terrestre. Le Qatar n'a pas une force de projection de dizaines de milliers d'hommes pour pouvoir imposer son agenda en Irak. Les relations se sont réchauffées, même si elles ont longtemps été rompues. Donc je pense que le Qatar, au niveau irakien, est utilisé dans le cadre d'affrontements politiques, je pense, lié tout simplement à la scène politique interne irakienne. Mais là, je pense qu'on est plutôt dans la déclaration politique destinée à occuper la surface médiatique par une nouvelle polémique que par une réelle implication du Qatar qui n'a quasiment aucune présence aujourd'hui en Irak, si ce n'est évidemment dans les rançons qu'il a pu payer ces derniers temps pour libérer des membres de la famille royale et des personnes autant qatariennes que saoudiennes qui avaient été raflées, qui avaient été kidnappées, il y a quelques mois.
Merci à vous, Nabil El Nasri. Je cite l'un de vos derniers ouvrages, L'énigme du Qatar, paru aux éditions de l'Iris. C'était en 2013.